ou Alain Bédoué.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Franceinter.fr.
Bonsoir, c'était il y a tout juste 30 ans, en juin 82. Jean-Loup Chrétien était le premier Français de l'espace à bord de Soyouz, tandis que Patrick Baudry se préparait lui aussi dans une équipe franco-soviétique. Alors le futur a-t-il encore un avenir dans l'espace et l'homme y a-t-il toujours sa place ? Quel sens donner aujourd'hui, en 2012, à la conquête spatiale et aux vols habités ? C'est notre sujet de ce soir au téléphone sonne, alors que déjà sur Internet, on nous demande ce qu'on cherche, ce que l'on continue de chercher, ce qu'on espère trouver, comprendre, et le tout, bien évidemment, avec quelle retombée scientifique ou industrielle, la question est récurrente. On demande aussi s'il pourrait y avoir des retombées écologiques, puisque certains disent déjà, l'écrivent même, que le salut de la Terre et son avenir se trouvent pour partie dans l'espace. Aux plus sceptiques ou qui trouvent que l'aventure spatiale coûte après tout très cher, on rappellera que parmi les pays émergents, la Chine, la puissance qui monte, sans jeu de mots, la Chine vient de dévoiler un très ambitieux programme spatial pour les 5 ans à venir, qu'elle en a même fait le symbole de sa montée en puissance technique, scientifique et surtout économique. La Chine qui a d'ailleurs réussi dimanche dernier son premier baiser spatial avec l'arrimage en mode manuel entre une capsule spatiale et un module orbital, et à bord au passage la première femme chinoise de l'espace. Dans la foulée, Pékin promet pour 2020, autrement dit demain, une première station spatiale habitée de façon, disent les Chinois, permanente. On peut rappeler également que l'an dernier, c'est le président Obama qui annonçait pour sa part, cette fois pour après-demain, à l'horizon 2025, le lancement d'une série de missions vers Mars. Avec nous ce soir, autour de Michel Polaco, Jean-Loup Chrétien précisément, du cas qui va arriver, cosmonaute, premier Français dans l'espace, co-auteur avec Catherine Alric de « Rêves d'étoiles » aux éditions Alphée. Également, je l'ai cité, Patrick Baudry, astronaute, ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO, membre du deuxième équipage du premier vol spatial franco-soviétique, qui a publié « La conquête spatiale en question » aux éditions Elitis, et enfin Jacques Villain, historien de la conquête spatiale, qui pour sa part a publié « Irons-nous vraiment un jour sur Mars ?» cette fois aux éditions Vuibert.
Le téléphone sonne.
C'est d'ailleurs par le programme martien qu'on peut commencer, puisque beaucoup de courriels portent sur Mars, comme celui de Serge à Toulouse. 4 lignes, je vous les lis. Les Américains et même les Chinois ne sont pas comme nous de doux rêveurs. Au contraire, des gens très pragmatiques qui ne risquent pas d'énormes budgets à la légère. Alors pourquoi ont-ils en quelque sorte zappé la Lune et jeté leur dévolu sur Mars ? Faut-il y voir la prochaine grande étape de l'aventure spatiale ? Voulez-vous commencer, Jacques Villain ?
Oui, je veux bien, mais je voudrais mettre un bémol à ce que vous venez de dire. Le président Obama n'a pas du tout décidé d'aller sur Mars.
Il a annoncé un programme.
Il a dit textuellement, en février 2010, « Je crois qu'au milieu des années 2030, nous pourrons tourner autour de Mars et plus tard y atterrir. » Mais quand vous regardez le budget de la NASA, il n'y a actuellement aucun dollar d'investi pour un voyage martien. Même sur le programme des sondes automatiques martiennes, pour le budget 2013, il y a 400 millions de dollars de moins. Et je répète ce qu'a dit Obama en 2007 avant d'être élu, « Ne comptez pas sur moi pour mettre de l'argent dans la conquête spatiale. » Et quand il a pris Buzz Aldrin pour annoncer...
Le compagnon de Neil Armstrong pour le premier atterrissage sur la Lune.
Il a dit, c'est pas la peine de retourner sur la Lune. D'ailleurs, Buzz y est déjà allé. Donc vous voyez qu'on n'est quand même pas dans une atmosphère bien réjouissante en ce qui concerne
les Américains du moins.
Alors, prenons la Chine. En décembre dernier, le comité central du Parti communiste chinois a publié un document, un livre blanc, dans lequel il dit... Nous regardons un vol habité vers la Lune pour 2030. Mais il n'y a toujours pas de programme de décider du côté chinois. Par contre, ce qu'il y a de décidé à la fois du côté américain et du côté chinois, c'est la réalisation d'un super lanceur, d'un grand lanceur, le SLS du côté américain qui ressemblerait en gros à la Saturne V d'Apollo, parce qu'on n'a rien inventé depuis cette époque, c'est toujours les mêmes moteurs, et on prend des moteurs de la navette. Et du côté chinois, c'est la Longue Marche 5, qui doit être à la fois capable de lancer plus de 25 tonnes en orbite terrestre, et qui sera aussi un concurrent d'Ariane. Donc voilà où on en est concrètement.
Patrick Baudry.
Oui, Jacques Villain a raison. Aujourd'hui, dans le monde, aucune grande puissance n'a annoncé d'une manière claire et définitive un programme concret pour aller sur la Lune ou aller sur Mars. Envoyer l'homme sur la Lune ou sur Mars. En revanche, on sait très bien que des enjeux très importants se dérouleront sur la Lune. Les Chinois le savent, les Américains aussi. Et les Chinois, a fortiori, parce qu'eux auront des problèmes d'énergie avant les Américains, et eux iront sur la Lune, où ils trouveront de l'énergie dans le régolithe lunaire, sous forme d'hélium-3, qui est une molécule particulière qu'on ne trouve pas sur Terre, et qui apportera, qui nous permettra d'avoir de l'énergie d'une manière abondante. Et donc, vu l'enjeu, les Chinois, même si aujourd'hui ils n'ont pas de programme réellement décidé, on sait très bien qu'avec le lanceur qui prépare, ils pourront aller sur la Lune. Et cette fois-ci, pour s'y installer. Buzz Aldrin, c'est effectivement, ça remonte à quelques années.
1969.
Mmh. Donc. Mais c'était un premier pas sur la Lune. C'était une première exploration lunaire par l'homme. La phase suivante sera une occupation de la Lune, une colonisation de la Lune et une utilisation de la Lune. Et il est tout à fait regrettable que depuis 30 ans, on dépense des budgets énormes qui seraient largement suffisants pour retourner sur la Lune et faire du travail réel, au lieu de bidons sous forme de stations plus ou moins internationales, etc., qui gravitent autour de la Terre et qui n'ont aucun intérêt. Donc, on ira sur la Lune. Aujourd'hui, sur le plan politique, dans le monde, les choses ne sont pas mûres, mais c'est l'urgence qui fera avancer les choses. Et quand les Chinois seront prêts à aller sur la Lune, on verra aussitôt les Américains décider un programme lunaire pour aller s'installer, travailler sur la Lune.
Une question encore à ce propos. Laurence à Lausanne vous a entendu il y a quelque temps, dit-elle, à la radio, Patrick Baudry, vous demandez si au lieu de construire une station spatiale internationale, il ne vaudrait pas mieux faire porter précisément nos efforts vers une présence permanente sur la Lune et ensuite, a-t-elle entendu, sur Mars. Et elle ajoute, Patrick Baudry, a-t-il avancé dans ses réflexions?
Oui, tout à fait. Déjà, pour répondre à une question fondamentale, qui est pourquoi l'homme dans l'espace et qu'est-ce que cela va apporter? C'est la question finalement finale et en même temps celle du début, elle est essentielle. Mmh. Moi, je pense que nous sommes une espèce tout à fait particulière vivant sur la planète Terre, donc l'espèce humaine. Et cette espèce a une caractéristique que n'a aucune autre espèce, c'est la curiosité. Pas l'intelligence, hein. Nos politiques nous montrent tous les jours que l'intelligence n'est pas la qualité la mieux partagée. Mais la curiosité. Et la curiosité, c'est ce qui nous a toujours fait avancer depuis nos lointains ancêtres, depuis des milliers d'années. Et cela continuera. Donc sur Mars, nous irons. Parce que c'est la connaissance de l'univers qui nous entoure et qu'on ira toujours vers cela. Et il y aura toutes les retombées, tout le monde peut se rassurer. Il y aura les retombées économiques, il y aura les retombées industrielles, il y aura les retombées environnementales, écologiques, etc. C'est l'histoire de notre espèce sur notre planète et qui se perpétuera peut-être sur une autre planète.
Tu as tout à fait raison. Et j'ajouterais même que je suis persuadé que dans 40, 50 ans, 70 ans, je ne suis pas à 20 années près, on sera contraint d'aller chercher notre énergie dans l'espace. Hein, parce que l'énergie fossile sur Terre, etc., on n'en aura plus suffisamment. Et puis le nucléaire fait peur, donc on va limiter tout ça probablement.
On mettra le nucléaire dans l'espace, puisqu'il y est déjà, et on récupérera l'énergie comme ça.
On ira chercher notre énergie dans l'espace. Et tu citais l'hélium-3 sur la Lune, c'est évident, c'est un enjeu économique, un enjeu énergétique qui va se découvrir. Tout à fait.
Donc, mais qui sera l'occasion de conflits, ou qui sera l'occasion, au contraire, d'une réunion des populations, des peuples et des nations?
Qui sera l'occasion d'une concurrence, à n'en pas douter,
absolument,
d'un conflit, je l'espère. Pas, bien sûr.
Alors, on me signale que Jean-Loup Chrétien, finalement, est plus loin qu'on ne croit. Enfin, il est sur orbite. On va essayer, de l'obtenir en insert téléphonique. D'ici là, au standard, Sylvain, vous êtes au Mans. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, j'ai une question sur la
synthèse. Oh, vous êtes très loin aussi, vous, au passage. Mais enfin, c'est pas grave, vous êtes audible.
Voilà, j'ai une question sur la ceinture de Van Allen qui entoure la Terre. Et cette ceinture est radioactive, paraît-il, et qu'il serait donc difficile de la franchir. Je voulais savoir si les combinaisons spatiales avaient évolué pour franchir cette ceinture.
Patrick Baudry.
Oui, si vous voulez, pour aller sur Mars, ce sera un des enjeux technologiques majeurs que la protection des astronautes ou des taïkonautes aux radiations. Alors, la ceinture de Van Allen n'est pas plus un problème que le reste de toute façon, mais il faut savoir que les vols habités aujourd'hui se déroulent sur une orbite inclinée à entre 45 et 50 et quelques degrés par rapport à l'équateur, en partie pour que l'on ne soit pas exposé à un niveau de radiation trop important. Mais pour aller sur Mars, il faudra résoudre techniquement ce problème. C'est un des grands enjeux technologiques.
Parce que les voyages dureront très longtemps. Donc on sera exposé pendant très longtemps.
Il n'y a pas que ça. C'est que ce n'est pas tellement les ceintures de Van Allen ou les particules qui sont... Parce qu'on n'y restera pas longtemps. Hein.
Pour franchir la ceinture de Van Allen...
Un voyage vers Mars, ça sera entre 6 et 9 mois. Donc on va rester dans un...
Aller et 6 à 9 mois,
sûr.
Et un certain temps sur place.
On ne va pas y rester 15 jours.
Voilà. Ce serait vraiment pas rentable.
Donc, il y a les orages solaires, il y a les flux de radiation venant du soleil, etc. Donc, il faudra se protéger en permanence pendant l'aller-retour et pendant la station sur Mars. Donc ça, c'est un enjeu tout à fait important.
Jean-Luc Chrétien, ici, Mangin, nous recevez-vous? Nous recevez-vous?
J'arrive sur Mars.
Bon, bonsoir et merci d'être au moins au téléphone, Jean-Luc Chrétien. On a commencé l'émission parce que j'ai la majorité des courriels qui portent sur ce thème, sur l'avenir de l'aventure spatiale. Le terme est un peu réducteur. Et puis notamment la présence de l'homme dans l'espace. J'ai déjà lu plusieurs courriels. Je vous lis celui de Lucas Sergi. Il rappelle que Claude Allègre, avant la polémique sur le climat, avait lui-même lancé le débat sur les vols habités. Et êtes-vous les uns et les autres, alors je parle à vous, Jean-Luc Chrétien, également Patrick Baudry et Jacques Villain et Michel Polaco qui sont avec nous, êtes-vous les uns et les autres favorables à une poursuite des vols habités, oui ou non, pourquoi? Quel est votre point de vue à vous, dont on rappelait qu'il y a 30 ans tout juste, vous étiez le premier Français dans l'espace?
Je pense que vous imaginez bien, je ne vais pas vous dire non.
Ça dépend, là, j'ai eu des réponses très nuancées de la part de Jacques Villain et Patrick Baudry. Alors, votre réponse à vous.
Alors, attendez, oui, là, effectivement, j'ai peut-être pas tout entendu, parce que j'étais dans un tunnel. La poursuite des vols habités tels qu'ils se font actuellement, c'est ça?
Oui.
Le conseil actuel. Ah, c'est sûr qu'il faut évoluer. Là, on visite la banlieue de la Terre depuis...
41 ans.
Depuis... Ouais, 51.
Ouais, 51 ans, j'entends Patrick, là. Et
bip, bip.
Il faut aller plus loin. Hein. Il faut aller plus loin. Alors, les moyens, on les a pas encore. Et je vous réponds en regardant ma route, parce qu'apparemment, ouais. C'est plus qu'à 50 mètres de chez vous. Là.
Ah. Il arrive du musée de l'air du Bourget où il y avait une grande cérémonie pour fêter les 30 ans du premier Français, premier Européen dans l'espace.
Le temps que vous arriviez, une autre question, là, elle est plus personnelle de Bernard dans le Jura. Je voudrais savoir quel souvenir Jean-Luc Chrétien garde de son séjour sur Soyouz. Michel Polaco me montrait un texte. Il paraît qu'en redescendant, vous avez dit à Michel Serres, oh, ben, c'est pas compliqué, c'est à peu près comme dans Tintin. C'est vrai?
À Hubert Curien qui l'a répété à Michel Serres.
À Hubert Curien?
Bon, c'est en simplifiant un petit peu et en creusant bien dans la mémoire, mais c'est vrai, Tintin a été notre rêve peut-être fondamental, et Hergé avait tellement bien imaginé ce que nous avons vécu, c'est vrai qu'on pourrait être plus profond quand même dans le commentaire et aller un peu plus loin que ce type de déclaration, mais bon, je persiste ici. En même temps, je cherche ma route. Là.
Bon, alors merci. Vaut mieux pas téléphoner, surtout en conduisant, on ne cesse de le dire. J'espère qu'on va vous retrouver physiquement ici, en studio, d'ici la fin de l'émission. On repasse au standard avec Michel, en Haute-Saône. Êtes-vous là, Michel? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors simplement, je voulais féliciter tout le monde pour la qualité de cette émission et puis le travail qui a été accompli jusqu'à présent, bien sûr. Mais je voulais simplement faire deux petites remarques. La première, c'est à propos de quand on parle de conquête de l'espace ou d'exploration spatiale, il faudrait peut-être modérer un peu, me semble-t-il, hein, le propos, parce que je ne pense pas que l'espèce humaine ira bien plus loin que l'orbite de Mars, compte tenu des possibilités technologiques qu'elle pourra avoir même dans un futur assez lointain. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il serait souhaitable d'améliorer les conditions humaines sur Terre, voire de vraiment s'en préoccuper au plus haut point, parce que si la vie sur Terre devient totalement impossible. On aura du mal à vivre dans une planète très proche de notre système solaire où on n'a pas encore essayé d'y mettre les pieds.
Alors on va vous répondre, mais ça nous permettra, parce que j'ai aussi des questions là-dessus, de parler un petit peu d'environnement et d'écologie. Mais par rapport à ces priorités qu'énonçait Michel, commentaire, Jacques Villain.
Oui, d'abord, notre auditeur a parfaitement raison. Si vous voulez, on mettra à peu près entre 6 et 9 mois pour aller sur Mars. Aller sur Jupiter, c'est 7 à 8 ans. Donc on voit tout à fait les limites.
Bételgeuse, c'est 100 ans à peu près.
L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Voilà. Elle est à 4,3 années-lumière.
Voilà.
Donc on ne sortira jamais du système solaire et même pas de la moitié du système solaire. Hein. Et il faut dire que quand on a un vaisseau spatial, on se traîne aujourd'hui. À 40 000 km/h, on se traîne par rapport à la vitesse de
300 000 km par seconde.
Voilà. Donc là, il ne faut pas nourrir trop d'espoir. On n'ira pas sur une exoplanète. Et puis il y a un autre phénomène aussi, si vous voulez, c'est que quand on voit ce qu'a coûté le programme Apollo, en dollars d'aujourd'hui, moi j'ai chiffré à 172 milliards de dollars pour envoyer 12 hommes.
Par rapport à la dette de la France, c'est rien.
Alors c'est rien, mais j'entendais Stephen Hawking qui disait il faut envoyer l'humanité dans l'espace, je vois le coût de transporter 7 milliards d'hommes. Non, il faut être raisonnable.
Mais Jacques Villain, il y a quand même toujours des sondes voyageurs, pionniers, qui sont déjà maintenant aux confins du système solaire.
Ah, sortis,
et nos enfants ou les enfants de nos enfants auront des informations qui arriveront d'aussi loin. Et ça va intéresser. Après tout on ne travaille pas que pour nous, on travaille aussi pour la postérité.
Il y a à peine 100 ans, on ne dépassait pas 100 km/h ou à peine. Aujourd'hui, c'est vrai, on navigue à 40 000 km/h, ce qui est ridicule. Mais dans 100 ans, dans 1000 ans, il est évident qu'on naviguera à des vitesses beaucoup plus conséquentes qui se chiffreront en proportion de la vitesse de la lumière. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous, vivant sur notre planète, soyons capables de dire comment vivront nos descendants dans 10 000 ans, bien sûr. Donc pour moi, il est évident que l'homme ira bien plus loin que Mars, ça c'est évident, à condition bien sûr de faire preuve d'un peu plus d'esprit d'initiative qu'on ne fait preuve depuis une vingtaine d'années, à tourner autour de la Terre, mais pour moi c'est quelque chose d'inéluctable, c'est notre curiosité qui nous poussera toujours. Il y a toujours une partie de l'espèce humaine, il y a toujours des hommes et des gens qui veulent conquérir, qui veulent aller plus loin, et c'est ce qui fera avancer le système.
Oui, mais il faudra inventer une nouvelle physique.
On inventera une nouvelle physique.
Là, c'est de la spéculation.
Oui, complètement.
Cet auditeur évoquait les contraintes qui pèsent du point de vue de l'environnement sur notre planète, et c'est vrai qu'elles sont réelles, ces contraintes, y compris comme des sommets comme tout récemment Rio+20 aboutissent quasiment à un échec. J'ai une question d'Alain dans la Nièvre. Une meilleure connaissance de l'espace pourrait-elle nous aider à mieux maîtriser notre environnement immédiat? Je pense à l'atmosphère et au réchauffement climatique. Il doit y avoir des tas de textes là-dessus parce que j'ai beaucoup de courriels en ce sens. Vous répondez bien sûr, Jacques Villain?
Bien sûr, parce que depuis 20 minutes, on ne parle que de l'homme dans l'espace. La conquête spatiale, ce n'est pas que ça. C'est bien sûr l'homme dans l'espace. C'est les sondes automatiques qu'on envoie vers les planètes du système solaire et vers l'univers.
Ça, c'est la science.
Ça, c'est la science. Mais aussi, c'est toute la flopée, permettez-moi l'expression, de satellites qui tournent autour de la Terre, qui font de la géodésie. GPS déjà qui nous aide à naviguer, les satellites de météorologie, et ça c'est l'essentiel.
Observation de la Terre, récoltes, les sécheresses,
compter les oliviers dans
les champs
pour la commission de Bruxelles qui veut donner des subventions, enfin etc. Donc les satellites aujourd'hui nous apportent énormément d'informations à notre vie quotidienne et font de la prévention pour les tempêtes, pour regarder ce qui se passe aujourd'hui en Californie. Les satellites apportent énormément d'informations. Donc vous voyez, la conquête de l'espace c'est pas uniquement l'homme, c'est également
l'environnement technologique ou technique. Patrick Baudry.
Oui, l'espace nous apporte des outils d'une efficacité considérable en ce qui concerne la maîtrise de notre environnement et des problèmes que l'on voit apparaître. Mais il y a quelque chose qui me frappe toujours lorsqu'on parle d'environnement, c'est le fait qu'on ne cite jamais le premier problème lié à des gradations de notre environnement, qui est le nombre de notre population. Nous sommes 7 milliards aujourd'hui sur Terre. On va être 12 milliards, qui peut imaginer que l'on soit 20 milliards? Or, c'est le problème majeur. Absolument. Et c'est celui auquel il faudrait s'attaquer si on était un petit peu réaliste. Et il serait beaucoup plus important de s'attaquer à ce problème de la prolifération d'une espèce particulière qui est la nôtre, plutôt qu'à toutes sortes de problèmes qui viennent finalement de notre prolifération.
Gérard, dans le Val d'Oise, bonsoir et bienvenue sur France Inter. Gérard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je trouve vos invités fort sympathiques. J'ai l'impression d'entendre mes enfants ou des grands adolescents parler de rêves dans les étoiles.
Mais
en 69, quand on a envoyé quelqu'un sur la Lune, l'Occident se foutait un peu, pour parler vulgairement, de que la moitié de la planète crève de faim. Aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a particulièrement en Europe aujourd'hui, j'aimerais savoir quel homme politique peut être élu sur un programme qui prévoit de mettre de l'argent pour aller sur Mars, alors qu'on n'en trouve pas pour résoudre la crise en Europe, c'est-à-dire chez nous. Voilà, c'est pas pour être un peu rabat-joie, mais...
Non, c'est tout à fait recevable.
Vous parlez du principe qu'on resterait en démocratie.
Avant d'aller sur la Lune, il faut peut-être avoir une sortie, quoi, voilà.
Non, mais Jacques Villain, à part un homme politique chinois...
Non, mais vous avez... Reprenez nos élections présidentielles il y a quelque temps, M. Cheminade avait mis le voyage vers Mars dans son programme électoral. Alors, il n'a pas été élu, je pense
que
c'est...
Y a-t-il un lien direct de vos effets, j'en sais rien.
Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, si vous voulez. Quand on essaie de chiffrer un programme de vol habité vers Mars, on le situe entre 400 et 500 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas à 100 milliards de dollars près, c'est évident. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions économiques, les conditions financières des principaux États, peut-être à part la Chine, et encore, ce n'est pas sûr, personne ne peut mettre autant d'argent, même sur 12 ans, dans un tel programme. Donc, à mon avis, les conditions ne sont pas réunies. On ira sur Mars, c'est évident, mais les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies.
Alors si maintenant on ne raisonne plus État par État, mais de façon plus globale, je dis ça parce que j'ai en main un courriel de Stéphane en région parisienne, est-ce que ça change? Il nous écrit, c'est très court, où en est maintenant la coopération spatiale européenne? Est-elle affectée elle aussi par la crise? Patrick Baudry.
Quand on parle de coopération européenne, on peut parler d'une manière plus générale d'Europe, on peut parler d'une manière encore plus générale d'ambition européenne, on peut parler encore d'une manière plus générale d'idéal européen. Et aujourd'hui il n'y en a pas. C'est quelque chose de clair et net, et c'est une des raisons majeures, à mon sens, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas une réelle Europe et un idéal européen à poursuivre, vers lequel on veut aller, je ne vois pas comment l'Europe pourrait exister et peser dans la balance. Aujourd'hui, on a une agence qui s'appelle l'ESA, qui fait un travail remarquable en ce qui concerne la science dans l'espace, l'observation de la Terre, l'environnement, enfin tout ce qui est moyen spatial utilisable par nous terriens, mais sur le plan de l'exploration et de la conquête, c'est très très modeste. Et c'est à la mesure de l'ambition européenne réelle.
Michel Polaco.
Oui, je comprends ce que dit Patrick, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier que des pays européens, ils sont encore 16 ou 17, se sont associés pour fabriquer un lanceur européen qui a marché, qui marche. Qui permet aujourd'hui à l'Europe de ne pas dépendre ni de l'Union, enfin des Russes, ni des Américains, ni des Chinois pour envoyer ses satellites, c'est-à-dire pour communiquer, pour avoir Internet, pour avoir le téléphone, pour avoir la télévision, etc. Qu'il y a une coopération européenne qui fonctionne bien pour ce qui est pragmatique, pour ce qui est utile pour notre vie de tous les jours, qui fonctionne pas mal pour ce qui est de quelques types de recherche, qui envoie des sondes lointaines, il n'y a encore pas longtemps on a envoyé sonde vers la Lune, c'est pas très vieux, qui envoie des satellites qui font de l'observation de la Terre et qui nous apprennent beaucoup de choses, comme le disait Patrick tout à l'heure. Alors c'est vrai que maintenant, est-ce qu'il y a une ambition européenne pour envoyer des hommes? Non, ça c'est clair, elle n'y est pas, on n'en a pas les moyens, on a un vaisseau qu'on utilise pour ravitailler la station orbitale internationale, dont certains disent qu'on pourrait faire peut-être une cabine de transfert de passagers ou d'évacuation, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette ambition, on n'a pas ces moyens.
Il y a un problème plus profond, je trouve, c'est que régulièrement, le président des États-Unis s'exprime sur la politique spatiale, sur la vision spatiale, même si je reprocherais personnellement à M. Obama de ne pas aller suffisamment loin de ce côté-là. M. Poutine, même chose. Enfin, Patrick, tu as connu les Russes. Le pouvoir politique était partie prenante.
Et les Chinois nous démontrent la même chose.
Les Chinois.
Les Indiens. Les Japonais.
Et les Japonais. Or, en Europe, quelle entité politique est en charge de l'espace? Aucune. C'est chaque État qui se débrouille, on met de l'argent dans un pot commun à l'ESA, etc. Mais il n'y a pas véritablement une vision spatiale, il n'y a pas véritablement un donneur d'ordre politique. Donc là, on a un handicap. Alors, comme le dit Patrick, malgré ce handicap, on se débrouille quand même pas trop mal. Ariane, et puis on envoie l'ESA.
Au succès, on lance des fusées Soyouz depuis Kourou-Guyane,
Vega,
des fusées Vega.
Vega a marché. Donc,
il est vrai qu'on ne voit pas comment l'Europe pourrait avoir une ambition spatiale quand elle n'a même pas une ambition diplomatique internationale unique. Et il faut être raisonnable pour l'instant.
Bien sûr.
Antonin dans Lyon, bonsoir et bienvenue, Antonin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
D'abord, merci d'avoir pris mon appel.
Mais je vous en prie.
Alors moi, j'aurais voulu savoir pourquoi on n'était pas retourné sur la Lune depuis la dernière mission des États-Unis. Et est-ce qu'on, concernant tous les canulars qui ont été proposés, les hypothèses de canulars qui ont été faites avec le vent sur la Lune, avec le drapeau derrière, Que pouvait-on penser de ces différentes propositions faites par des différentes personnes sur Internet?
Alors, on va répondre aux deux questions. D'abord, comme le disait un précédent internaute, pourquoi est-ce qu'on a zappé la Lune et, alors qu'on pense à Mars? Et puis ensuite, on parlera de la prétendue histoire des Américains qui n'y seraient pas véritablement allés. La Lune, Jacques Villain.
Alors, il faut se remettre dans l'ambiance de juillet 69. C'est le président Nixon qui est à la barre aux États-Unis et c'est l'euphorie totale. Alors, c'est l'euphorie à la fois parce qu'on a conquis, entre guillemets, la Lune, mais aussi, surtout, parce qu'on a battu les Soviétiques. Parce
pour la première fois.
Pour la première fois.
Jusque-là, les Américains étaient toujours à la traîne.
Le programme Apollo était un programme politique. C'était pas un programme scientifique. La preuve en est, c'est que l'Académie des sciences des États-Unis a protesté en 63 parce qu'il n'y avait pas d'objectif scientifique dans Apollo. Donc, on est en 69, c'est l'euphorie, l'Amérique a abattu à plate couture l'Union soviétique, et là on voit la NASA proposer à Nixon une station, une navette, Mars, etc. Et on est toujours, dans les années qui vont venir, avec cette euphorie. Et puis on fait nos comptes, on s'aperçoit que...
Il y a la guerre du Vietnam qui
bouffe pas l'argent. Il y a la guerre du Vietnam, on n'a pas l'argent pour se payer la station, et puis on va conserver que la navette. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va pas y avoir. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de vision spatiale. C'est à partir de ce moment-là. Donc, on va voir des présidents qui vont annoncer des choses, mais il va pas y avoir un dollar d'investi. Ben, d'abord parce qu'on a tué l'adversaire, si je puis dire, et que l'investissement est important pour pouvoir continuer. Et on voit pas la finalité.
Les astronautes et les cosmonautes ont fait la paix dans l'espace. Faut pas l'oublier. Il y a eu la rencontre Apollo-Soyouz. Et à partir de là, cette paix qu'on n'arrivait pas à faire sur Terre, on a commencé à la faire dans le ciel. C'est assez beau, ça, quand même.
Oui, tout à fait. C'est un symbole.
Patrick Baudry.
Je pense qu'il y a plus de perversité que cela. Les États-Unis sont la nation leader en matière de conquête spatiale habitée. Et ils sont également la nation leader en matière énergétique dans le monde.
Ouais.
Or, l'objectif principal pour aller s'installer sur la Lune sera un objectif énergétique.
Complètement.
Et les États-Unis sont les derniers qui ont intérêt à ce qu'on trouve une énergie moins chère ailleurs.
Ouais.
C'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut une nécessité ou politique ou autre pour faire avancer un programme quel qu'il soit. Et la meilleure preuve, c'est qu'on constate que depuis 69, les États-Unis, l'Europe, un certain nombre de pays en coopération ont exploité cette station spatiale internationale qui a coûté encore plus cher que le programme Apollo. Et à iso-budget, c'est-à-dire le budget qu'on a dépensé dans cette station, pour moi, inique, nous aurait permis d'aller nous installer sur la Lune.
C'est vrai.
On a dépensé déjà quand même...
On est à 150 milliards à peu près.
On est plutôt à 200 milliards de dollars.
Enfin, moi, j'en suis à 150, mais on n'est plus à 50 milliards.
Bon, mais avec 200 milliards de dollars, si en 2012, on n'est pas capable d'aller s'installer sur la Lune, il faut changer de métier. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient le faire, d'ailleurs.
Michel Palaco.
Oui, l'auditeur a posé une question sur cet effroyable canular négationniste qui consiste à dire que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Alors, il y a des tas de raisons. On peut répondre à tous les arguments, le drapeau, le vent, le truc, le machin, l'ombre du soleil. Enfin, bon, on a vu tout ça. Mais il y a quand même un argument qui est massu, c'est que les Américains sont allés sur la Lune en concurrence avec les Russes, qu'elle est soviétique, que c'était la guerre froide, que vous imaginez bien que les Soviétiques, en pleine guerre froide, alors qu'eux-mêmes, pendant que les Américains envoyaient les premiers hommes sur la Lune, eux, ils envoyaient une sonde qui s'écrasait, qui était un lunacode. Vous pensez bien que si ça n'avait pas existé, s'il y a bien des gens qui l'auraient dénoncé, c'est eux. Et alors, ils l'auraient dénoncé pour Apollo 11, pour Apollo 12, pour Apollo 13, pour Apollo 14, pour Apollo 15 et pour Apollo 16 et pour Apollo 17. Donc, rien que ça, si vous voulez, ça montre que c'est une ineptie.
Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les années qu'on suivait Apollo, ce genre de canular n'existait pas.
Oui.
Il est arrivé bien après. Et Patrick, tu connais comme moi Houston très bien.
Oui.
Qui a amené ces 304 80 kilos de
roche lunaire.
De roche lunaire. Qui a amené ça?
Non, mais c'est absurde. Jacques, c'est absurde, mais il y a des rumeurs qui partent comme ça.
Ouais.
Et Michel,
il y a des gens qui vivent avec ça aussi.
Il ne faut pas croire à n'importe quoi, c'est évident.
Ouais.
J'ai l'impression que Jean-Loup Chrétien a toujours des problèmes de rétrofusée. J'espère qu'il nous écoute parce que j'ai des questions pour lui, alors à condition d'avoir des réponses.
Il doit être à bord du LEM.
Il peut toujours nous répondre. D'ici là, je vous lis la question de Lilian à Dunkerque. On parlait tout à l'heure des autres aspects que la présence même de l'homme. En dehors, écrit-il, de l'exploration spatiale proprement dite, ne pensez-vous pas que l'exploitation de certaines ressources minérales, par exemple sur les astéroïdes ou encore l'utilisation du rayonnement du soleil, pourrait représenter une solution à nos besoins en énergie sur Terre ou dans les contraintes environnementales de plus en plus dures. Jacques Villain, vous répondez oui?
Pour moi, c'est clair, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, je ne sais pas à quelle date, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on manquera d'énergie sur Terre, il faudra la chercher dans l'espace. Alors, Patrick disait l'Ariane 3 sur la Lune, on peut rajouter les panneaux solaires en orbite sur la Lune ou un peu partout, et puis aussi les ressources qu'on va trouver, je ne sais où, sur les astéroïdes.
Déjà, on sait que l'énergie solaire est faramineuse,
bien sûr,
considérable, inépuisable. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas comment la récupérer, mais il y a quand même des tas de moyens et on en trouvera d'autres.
Il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'on n'a jamais trouvé grand-chose en ne cherchant rien.
Voilà, ça c'est bien vrai. Absolument. Et toc, aurait dit la palisse.
Jean-Luc Chrétien, qui s'est arrêté, hein, je rassure les auditeurs, il ne téléphone pas en conduisant. Si vous m'entendez, j'ai une question pour vous intéressante, c'est Mathéo à Vincennes. Alors Mathéo, il écrit, j'ai lu que Jean-Luc Chrétien avait séjourné à la fois dans la station Salyut 7 et la station Mir, mais aussi dans une navette américaine. Et il demande, y a-t-il des différences techniques, voire de confort, entre les systèmes russes et américains dans l'espace? Jean-Luc Chrétien.
Oui, alors, pour essayer d'être concis, des différences, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas des différences importantes pour la plupart. Les plus grosses différences sont le principe du système. On a d'un côté une capsule qui est un ascenseur, un véritable ascenseur très bien conçu et qui permet d'amener les hommes dans l'espace, et de l'autre, une navette, il n'y a pas d'autre mot, donc un avion spatial qui permet d'amener un équipage et qui permet surtout d'amener du fret, d'amener plus de 20 tonnes de fret dans l'espace. Alors, c'est ça la différence fondamentale. Les technologies qu'on retrouve à bord sont relativement similaires. Et pour revenir donc à la description de ce moyen d'accès à l'espace, cette différence, eh bien, il faut savoir l'exploiter. Actuellement, on est bien en phase avec le système russe donc d'accès par ascenseur, alors que la pauvre navette, eh bien, n'a plus rien à amener là-haut et encore moins en ramener sur Terre. Donc les 20 tonnes de fret, c'est d'abord du fret qui coûte très cher, parce que le système doit être capable du vol habité. Donc le kilo qu'on amène en orbite, le kilo de charge utile, il est très cher, etc. etc. Donc voilà les grosses différences. Et j'ai écouté, malgré les affres de la circulation, ce que disaient mes collègues et ce que disait Patrick d'ailleurs, et en passant... merci Patrick, parce que c'est là où on voit le travail d'équipage, hein, quand un des pilotes est coincé dans les toilettes dans un avion.
On fait la même chose avec Michel Polaco, hein, on se passe le mot.
Ah d'accord, bon ben c'est bien.
Dream Team.
En tout cas merci Jean-Loup Chrétien. À propos
juste un
de
mot,
ce
alors,
que...
je vous signale quand Michel. Même que Jean-Loup, vous participez ce soir à l'avant-avant-dernier téléphone sonne de notre ami Alain Bédoué, qui est à France Inter depuis 42 ans et qui anime ce soir le dernier téléphone sonne sur l'espace.
Sur l'espace,
voilà,
parce qu'il y en aura
d'autres. Il en fera encore de demain.
Alors Patrick Baudry, dans cette logique, j'ai également de Londres, Eric, une question un petit peu du même ordre, qui ne compare pas directement les systèmes russes et américains, mais enfin il nous écrit, y a-t-il toujours des capsules, des stations au-dessus de nos têtes avec des équipages qui y passent de long moins? La technique même des vols spatiaux, l'entraînement des spationautes, ce qu'on leur demande de faire, est-ce que tout cela a beaucoup évolué?
Oui, tout cela a évolué, disons que les choses sont devenues un peu mieux organisées et plus faciles aujourd'hui, bien sûr. Et plus sûr, on l'espère, quoique ça, c'est une bataille permanente. Mais pour ajouter quelque chose que disait Jean-Loup, la différence entre les vaisseaux spatiaux russes et américains, c'est que à bord des deux, il est interdit de consommer de l'alcool, mais à bord des vaisseaux spatiaux soviétiques, en revanche, un peu de cognac, ça fait jamais de mal quand il y a une grande occasion. Ça, c'est une différence importante. Il faut bien que les auditeurs se rendent compte que le cœur et la culture participent à l'aventure humaine, soit-elle extrêmement technologique.
Jacques Villain, sur les systèmes, toujours?
Oui, non, mais c'est difficile de comparer un Soyouz avec la navette. Oui. La mission n'était pas la même, la masse n'était pas la même. Et puis, la date de conception n'était pas la même non plus. Hein, le Soyouz, il a quand même été conçu au début des années 60.
Alors, tout s'appelle Soyouz chez les Russes.
Oui.
Les fusées s'appellent Soyouz.
Oui.
Les vaisseaux s'appellent Soyouz.
Oui.
C'est pas toujours facile de s'y retrouver.
Oui.
La fusée qui a lancé Gagarine s'appelait Soyouz. Et on lance des Soyouz depuis Kourou en Guyane. Et en fait, ça n'a plus rien à voir. Ce sont plus du tout les mêmes fusées. Mais ils nous auront bien trompés quand même.
Alors, l'interactivité oblige, on réagit beaucoup par courriel. Pascal, voilà le message qu'il nous envoie. Un auditeur, ça c'était il y a 10 minutes, vient d'affirmer que les électeurs ne suivraient pas à l'heure actuelle un candidat dépensant de l'argent pour la conquête spatiale. Et pourtant, ils votent pour des programmes militaires bien plus coûteux, notamment aux États-Unis. Voilà. La guerre en Irak a coûté combien de missions martiennes? Donc vous voyez, les avis sont partagés. Après tout, c'est également tout à fait recevable à budget comparé, Jacques Villain.
Oui, un rappel, le budget militaire des États-Unis aujourd'hui, c'est 713 milliards de dollars. Le budget de la NASA, c'est 18 milliards. Ouais. On n'a rien à voir.
Hein. Moi qui suis ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO pour l'éducation pour les enfants, je peux vous dire qu'en 2001, après le 11 septembre et en 2002, le budget du Pentagone pour combattre le terrorisme, entre autres, dépassait les 1000 milliards de dollars, alors qu'à l'UNESCO, on avait un peu plus de 100 millions de dollars pour l'éducation dans le monde. Donc ça vous laisse imaginer, cet auditeur a du bon sens à revendre.
Oui, alors, message d'Aurélie à Chalon qu'on m'apporte à l'instant, Chalon-sur-Saône. Depuis le début de l'émission, vous parler de l'homme dans l'espace, et pendant ce temps-là, la femme est dans la cuisine. Non, je l'ai dit, la première chinoise dans l'espace, elle est au-dessus de nos têtes.
Voilà, et puis Claudine Hénioré a été l'une française dans l'espace. Il y a 55 femmes, je crois, qui sont allées dans l'espace sur les 530 personnes qui sont allées.
525 avec la chinoise, c'est la 525e, et il y a eu 10% de femmes à peu près. C'est vrai que là, il y a un retard à
comprendre. On est loin de la parité, la parité n'est pas un objectif en soi. Les femmes font un travail absolument remarquable dans l'espace, parce que j'avais une femme dans mon équipage. On les considère exactement comme nos égales. C'est même pas une question.
Ouais. 20h dans quelques instants. Merci à tous. J'espère qu'au bout du compte, Jean-Loup Chrétien va se sortir de ses embouteillages.
On va l'emmener boire un coup.
Demain soir, avec les économistes atterrés, question sur l'Europe, sur l'euro et le prochain sommet européen. Vous savez qu'à chaque fois, on dit que c'est un sommet crucial et de la dernière chance. Alors, on verra bien. Merci à tous. Bonsoir. À demain.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.